Je vais d'abord demander à nos trois conférenciers s'ils ont envie de réagir à cette discussion rassemblée de leurs trois interventions.
Non, je voulais juste dire un mot. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le ProcessScopes. Bon, j'étais un petit peu vite, donc je n'ai pas eu le temps de mentionner ça. Mais donc, à l'intérieur du procès, effectivement, William Jennings Bryan est cuisiné par Darrow, et vous l'avez très bien montré. Bon, Darrow n'a pas de difficulté à trouver des tas de contradictions dans la Bible ou des histoires des poissons, etc., qui font en sorte que William Jennings Bryan se plante tout à fait. Et se ridiculise. Donc, de notre point de vue, il a perdu. Il a perdu au sens où la référence qu'il donne à la Bible est une référence qu'il n'arrive pas à tenir dans le discours, puisqu'il est confronté à des impossibilités, des contradictions, etc., etc. Mais la réalité, quand même, c'est que Scopes a été condamné. Certes, le jugement a été réformé en appel pour une question technique, donc il n'a pas fait de prison, mais après... Et William Jennings Bryan, peut-être qu'il a été cuisiné un peu brutalement, parce que vous savez qu'il est mort 10 jours après, une attaque cardiaque, je pense, qui était le grand leader des créationnistes, n'empêche que c'est à ce moment-là qu'un certain nombre d'États ont légiféré dans le même sens, donc adopté des lois similaires, dont la loi d'Arkansas, qui sera contestée 30 ans plus tard devant la Cour suprême. Mais donc, c'est quand même une victoire des créationnistes, c'est-à-dire que pendant 30 ans, et à la fois dans les États où c'est interdit, où il est interdit d'enseigner le darwinisme, et dans les manuels, on ne parle pas de la théorie de l'évolution. Mais sinon, sur le plan de ce qui s'est passé dans le procès, vous avez parfaitement raison.
Merci. Oui, professeur Ricci.
Alors, les choses que les discutants ont dit sont très importantes. Je suis tout à fait d'accord sur le cadre qui a été tracé. Et je voudrais souligner que vient d'une part le fait qu'on souligne l'importance du fait dans la reconstruction du procès d'inquisition. Et de l'autre part, l'importance du comportement du reo pendant le procès. C'est l'autre question que vous avez bien soulevée. Pourquoi on arrive à 1699 dans le procès de Giordano Bruno, qui est activé l'an 1692? C'est un long procès, parce que c'est très difficile de la part du tribunal, de soit à Venise et après à Rome, de définir les faits. C'est-à-dire de valider les témoignages qui ont été portés contre Bruno en raison de la mauvaise qualité morale des témoins. Et c'est pour cette raison que Bellarmine croit de résoudre le procès en soumettant à Bruno cette liste de thèses qui sont dérivées de ses ouvrages, qui viennent des censures, pas seulement du procès, c'est-à-dire des faits, mais qui viennent des idées de Bruno. Et alors, ici commence l'importance de l'autre aspect, les comportements, l'attitude du reo. Bruno ne se démontre pas collaboratif. Ou bien, il se démontre au début de la question très collaboratif. Il dit bien, je suis prêt, je suis disponible à abjurer sur cette liste. Et après, il change soudainement son avis. Et il décide de demander directement au pape, chose qui était vraiment une manifestation terrible, d'autonomie, de s'adresser directement au pape plutôt que de se faire gérer par les inquisiteurs, de définir certaines théories comme des hérésies ex nunc. Alors, les faits, difficulté de reconstruire les faits, et de l'autre côté, les comportements, l'attitude psychologique, la disponibilité à coopérer de la part du reo. Naturellement, Bruno n'a été pas... processé et condamné que pour des théories scientifiques qui étaient en contraste avec les vérités de foi et les vérités catholiques. Mais c'est central la question de l'immortalité de l'âme. Comme on voit des documents, Bellarmine souligne qu'à un certain moment, Bruno semble être disponible à abjurer presque tous les points qui sont soumis dans la liste, mais qu'il est encore très incertain sur deux points, et un de ces points-là, c'est la conception de l'âme. Bruno croit que l'âme soit comme nauta in navi, un marin sur les bateaux, plutôt que croire que l'âme, c'est la sola forma corporis, que c'était la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Et alors, mais il y a des autres questions qui sont strictement religieuses. Il y a la définition de l'Esprit Saint comme âme du monde. Il y a les doutes sur l'incarnation. Il y a les blasphémies contre Jésus-Christ. Il y a des choses qui ont presque rien à faire avec la philosophie et la science et qui appartient à la façon dans laquelle Bruno a été enregistré, a été reçu par les témoins du procès, qui étaient des compagnons de prison de Bruno, il faut souligner ça, qu'à part celui, le gentilhomme vénitien Mocenigo qui dénonce Bruno à l'Inquisition, c'est le seul témoin, celui qui a fait la dénonciation, qui est un noble, qui est un aristocrate, qui est fidedignus au point de vue de l'Église, mais les autres témoins, ils ne sont que des compagnons de prison de Bruno. C'est des gens qui partagent la prison avec Bruno à Venise. Et alors, ils ne sont pas fidedignes pour l'Église. Merci.
Merci pour cet éclairage donc, sur ce rapport à la vérité plus qu'à la vérité en tant que telle. Professeur Provost, une petite réaction?
Oui, très, très rapidement. J'ai beaucoup aimé la question de savoir est-ce qu'on peut exiger de la justice qu'elle tranche des questions métaphysiques. Et j'aurais tendance à répondre oui, et un peu à contresens, c'est-à-dire que ma lecture du droit, c'est qu'il dénature toutes les questions qu'on lui pose pour les transformer en questions juridiques. Et le droit est une discipline cannibale, on pourrait dire, qui va purement absorber toutes les autres disciplines pour les... en reproduire sa propre version. Et donc, on peut dire ça de la médecine, de l'histoire, de la philosophie. Il y a toute une version juridique, il y a toujours une version juridique de ces disciplines-là qui sert les fins du droit. Deuxième point, là encore, je pense que c'est une manière très intéressante de poser la question, de dire que ce qui est en jeu, c'est non pas la vérité, mais un rapport avec la vérité. Et je pense que ça reflète bien la divergence des positions entre la majorité et la dissidence dans la décision du tribunal pour la Sierra Leone que j'ai mentionné. C'est-à-dire que quand, comme le dissident, on cherche à se rapprocher de la question de la vérité au-delà du simple rapport avec la vérité, on est entraîné dans une logique qui nous mène vers les frontières, sinon au-delà des frontières du droit. Et un exemple de ce phénomène-là, toujours dans le contexte de la sorcellerie en Afrique, ce sont des poursuites pénales devant des instances nationales, entre autres au Cameroun et en Afrique du Sud. Il y a des lois qui criminalisent le fait de jeter des sorts. Et évidemment, se pose un problème quand quelqu'un est accusé de sorcellerie pour le tribunal de savoir comment est-ce qu'on reconnaît un sorcier. Et la façon dont on procède, c'est qu'on fait appel à d'autres sorciers qui sont experts sorciers pouvant reconnaître d'autres sorciers. Mais là, évidemment, la cour se retrouve à conférer le statut de sorcier expert à certains individus, ce qui vient un peu contredire le discours anti-mysticisme qui a pu alimenter cette législation-là au départ. Donc, c'est un peu un piège dans lequel on peut tomber avec ce genre d'analyse-là. Merci.
Un tout grand merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur les interventions ou des réactions aux discussions ? Ici. Monsieur ?
Je vous remercie de me passer la parole. Je suis Gilles-Fabrice Zohondo, je suis magistrat en service au tribunal de Yaoundé au Cameroun, justement. Alors justement, j'avais une préoccupation par rapport à la justiciabilité des questions métaphysiques. Parce qu'en réalité, comme le dit le professeur Provost, l'article 251 du code pénal camerounais punit l'effet de sorcellerie. Effectivement, tel que c'est libellé par le législateur, c'est un ensemble de pratiques de magie, de divination et de sorcellerie qu'il faudrait nécessairement démontrer. Et je suis d'accord que la démonstration n'est pas souvent aisée. Mais je voudrais quand même dire que les questions métaphysiques, à mon humble avis, ont une dimension culturelle qu'on ne saurait négliger. Dans la mesure où qu'il s'agisse des civilisations européennes, Il y a eu des moments où la question de la sorcellerie s'est fortement posée. Et je crois qu'en Afrique, c'est à peu près dans cette situation que nous nous trouvons aujourd'hui, où les questions de sorcellerie font partie intégrante de la vie du commun des mortels. Et j'ai bien apprécié l'expression du professeur parlant du faux mystique. Parce qu'effectivement, quand on va dans ce sens, on peut se demander s'il n'y a pas un vrai mystique qui peut exister. Parce que l'expérience qui est la mienne dans les juridictions, il arrive effectivement que vous vous retrouviez face à des phénomènes qui n'ont aucune explication scientifique. Et je crois que même dans les sociétés européennes, on a encore des phénomènes de ce genre. Alors, ce qui fait que, partant effectivement de ce postulat selon lequel le faux mystique ne peut pas vaincre la pensée rationnelle européenne, comme vous l'avez soulevé, ma préoccupation était donc de savoir si... vu dans cet angle, on ne devrait pas nécessairement intégrer la réalité des cultures, des sociétés, pour pouvoir comprendre la conquête de la vérité. Je vous remercie.
Merci. Est-ce que l'un des intervenants souhaite réagir? Monsieur Provost, peut-être?
Oui, mais je pense que ça s'adressait plus directement à moi. Merci, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et bon, j'ai pas vos compétences pour discuter de ces questions-là, mais je pense que effectivement ça pose la question de l'empire de la rationalité dans le discours juridique. Jusqu'à quel point est-ce qu'on doit adopter sans aucun questionnement l'idée que tout s'explique grâce à la rationalité? Qu'est-ce que ça veut dire la vérité quand 80% des gens d'un pays vont croire à tel phénomène que la rationalité ne peut pas expliquer? C'est, par exemple, en Afrique du Sud, on dit que les trois quarts des gens ont recours à un type de pratique qui est non rationnelle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire d'alléguer qu'il n'y a pas de vérité là-dedans alors que c'est une réalité non vraie? Il y a un peu un non-sens là que le droit est peut-être pas parfaitement outillé pour expliquer. Mais merci de votre intervention.
Oui, Madame Claverie.
Oui, moi, je voudrais aussi intervenir sur cette question de la croyance. Je pense pas qu'il faille... Peut-être est-ce parce que je suis anthropologue, mais je ne pense pas qu'il faille opposer de façon aussi systématique rationalité et croyance. On l'a beaucoup montré ces dernières années, et il y a dans toutes sortes de croyances, y compris non religieuses, des éléments de rationalité locale, interne, extrêmement importants. Et dans les systèmes de sorcellerie, dans le bocage, en Mayenne ou au Congo RDC, où vous voudrez, c'est très étrange de le prendre au pied de la lettre. C'est un système sociologique, un système d'accusation, d'imputation, il y en a d'autres, et c'est un système d'imputation tel et tel, selon les destinataires, le système d'énonciation qui le transporte. Mais je pense... Et le droit aussi est un système de croyance, on peut tout à fait le montrer, et je pourrais le montrer un peu tout à l'heure. Et travaillant sur les affaires Congo en ce moment, à la Cour pénale internationale, je me rends compte que depuis l'affaire Sierra Leone, on a aujourd'hui des juges qui réagissent, qui ont appris à réagir avec des systèmes d'équivalence, c'est-à-dire... qui ne sont pas littéralistes, comme le seraient des créationnistes. Et d'ailleurs, je m'étonne de voir que ceux qui répondent aux créationnistes lisent la Bible de façon aussi littérale qu'eux. C'est que, effectivement, ces juges mettent en place des équivalences. C'est-à-dire, ils disent, donner un fétiche à tel maï-maï, c'est équivalent à donner de la bibine à un type qui monte au front en 14. Penser que, etc., ou... un système de mobilisation instrumentale, il peut être tel au Congo comme il est tel ailleurs. Et essaye de lire de face les croyances, non pas comme des systèmes irrationnels et fermés, mais à des systèmes qui ont des rationalités internes que les juges, en proie procès après procès, ou plutôt audience après audience, sont bien obligés, dans l'affaire Katangan-Gucholo comme dans l'affaire Lubanga, de détailler, de s'appliquer à comprendre, et avec un travail qui s'apparenterait à celui d'un anthropologue, par exemple.
Un tout grand merci pour cet éclairage sur les relations entre anthropologie et droit, et elles sont nombreuses. Est-ce que, monsieur Provost, vous voulez réagir sur cette, là, effectivement, ce problème de l'opposition entre croyance et vérité? Et on sait tous, et ça effectivement l'anthropologie le montre bien, que dans l'expérience d'un individu, il y a évidemment beaucoup de normes qui sont parfois incompatibles, qui en fait se conjuguent, et donc les juges en font sans doute l'expérience. Olivier Corten.
Peut-être dans le même sens, je voulais intervenir en revenant sur l'affaire Kondewa. Est-ce que là, on ne doit pas justement considérer que la majorité, en intégrant aussi par une sorte de cannibalisme la logique propre de la magie pour la traduire en termes d'attribution au sens de la responsabilité pénale, est d'un certain point de vue plus respectueuse, puisqu'elle en reconnaît la réalité de la culture locale, que le juge dissident qui, lui, jouerait le rôle de Tintin, en fait, en disant, bon, de toute façon, tout ça est faux, donc il faut aucunement en tirer des conséquences juridiques.
Oui, je vais pas nécessairement monopoliser un peu les réponses, mais bon, et je répondrai aux deux commentaires tant qu'à y être. La décision de la majorité et de la Chambre de première instance est assez ambiguë. Et c'est une ambiguïté qui est peut-être pas accidentelle. Peut-être, je pense que c'était peut-être une patate chaude dont ils voulaient pas vraiment garder ou réclamer la propriété pleine et entière. Donc, c'est même pas clair si c'est le contrôle de jure ou de facto dans l'analyse. C'est très ambigu. Parce qu'on parle du statut de sorcier comme une position officielle au sein des CDF, des Civil Defense Forces, mais la façon dont on le décrit rappelle plutôt l'analyse d'un contrôle de facto. Et tout ça pour dire que vraiment, là, on en parle très, 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 très peu. Il faut le chercher pour trouver la mention. Et je disais à quelqu'un durant la pause que s'il n'y avait pas eu la dissidence du juge King, tout ça, il n'y aurait personne qui aurait porté attention à ça dans le jugement de la majorité, parce que c'est vraiment complètement enterré. Et comme tu dis, je ne pense pas que c'est une lecture de respect. C'est vraiment une lecture de désengagement, ce qui n'est pas la même chose. Est-ce que le dissident est un peu le Tintin de cette aventure plus moderne? Comme disait monsieur le juge tout à l'heure, la sorcellerie est une réalité dont la présence est indéniable dans des sociétés comme en Sierra Leone et dans d'autres pays. Et le juge dissident proteste un peu trop. C'est-à-dire que il fait comme si c'était un truc bizarre sorti de je sais pas où, que ouais, ils ont inventé un machin, blablabla, bla, bla, alors que c'est il y a le lien à faire entre les élites, leur pouvoir et la sorcellerie dans la société africaine contemporaine est assez indéniable, et il est pas rare que les gens puissants expliquent en partie leur puissance par le fait qu'ils ont des sorciers qui soutiennent leur puissance, des gens un peu comme le juge King. Alors, je ne connais pas l'histoire du juge King, je ne sais rien de lui, mais ce ne serait pas extraordinaire pour quelqu'un comme ça de quitter le siège de la cour à Freetown pour aller voir son sorcier pour confirmer son autorité locale. Donc, je ne pense pas que c'est tout à fait Tintin. Je pense que c'est un discours sur l'afro-modernité qui cherche à nier cette réalité pour un certain public. Le problème, c'est qui lit cette décision. C'est pas les Sierra Leonais, c'est les gens à l'extérieur auxquels on veut pas que eux ils voient cette réalité-là. Donc on veut cacher cette réalité qui pourtant est vraiment indéniable sur le terrain.
Merci. D'autres questions ou interventions? Oui, merci. Merci. Bon, voilà.
Voilà. Moi, je pense quand même que pour les avocats, pour les juges ou pour n'importe qui d'entre nous, une croyance, c'est une vérité. Je ne vois pas très bien la différence entre une vérité religieuse et une vérité scientifique, parce que même ceux qui ne sont pas religieux, ils croient en quelque chose, un libre penseur ou d'autres qui croient en d'autres affaires. Et aller dire à quelqu'un, voilà ce que tu crois, c'est faux, il faut des preuves solides et matérielles. Et même ces preuves, on l'a dit tantôt, ça dépend un petit peu, c'est parfois aussi subjectif. Quand tous les avocats vont au tribunal, on défend d'abord le mari trompé, puis la fois d'après, c'est l'épouse trompée, mais d'un autre ménage. Et bon, notre vérité, c'est laquelle? C'est celle de notre client. Et il faut y croire pour défendre. Parfois même, on sait très bien que ce n'est pas vrai ce qu'on raconte, mais on doit donner l'apparence de la crédibilité et de la croyance. Parce que si on ne donne pas l'apparence au moins de la croyance, le juge sera encore moins convaincu que nous. Donc l'affaire de notre client sera encore plus, en plus mauvais état. Alors que ce soit pour une vérité judiciaire, on en parlera tantôt, ou une vérité religieuse ou quoi que ce soit, moi je ne vois pas très bien quelqu'un qui dirait « Oui, moi je crois ceci, mais en fait c'est tout à fait faux parce que scientifiquement c'est autre chose. » Et je rejoins un petit peu ceux qui disent qu'effectivement au début, il faut un grand architecte. Parce que nous les avocats, on voit deux choses dans le monde. Le monde est encore mieux ordonné qu'une procédure, en ce sens qu'il y a des lois mathématiques qui se retrouvent. Et d'autre part, qui a créé le chaos au départ, c'est quand même un avocat.
Merci. Oui, bien sûr.
Voilà, ça marche. Je pense que vous partez d'un phénomène qui est un phénomène très important, mais qui est différent de ce dont il s'agissait, au moins quand on parlait de la croyance en matière de créationnisme. Et je reviendrai tout de suite sur le littéralisme des adversaires du créationnisme. Je pense qu'effectivement, un avocat qui défend une cause a un certain type d'engagement, qu'il y ait des éléments de croyance, c'est-à-dire que l'avocat soit convaincu de façon un peu intuitive, par exemple, de l'innocence de son client en matière pénale, ou que tout simplement il plaide comme il doit le faire et qu'il présente la position de son client sous la meilleure lumière, etc. Il n'y a pas de doute qu'il y a des éléments très différents qui interviennent, surtout dans une matière où les faits sont des faits passés, qui sont difficiles à établir, qui ont été souvent dissimulés, et donc il y a bien entendu à la fois le métier de défendre, et puis il y a sans doute aussi un élément de croyance et de conviction qui joue là-dedans, c'est très complexe, j'en suis tout à fait sûr. Maintenant, ce dont il s'agit dans l'opposition entre le créationnisme et le darwinisme, il faut bien savoir de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'empêcher à quelqu'un de dire à l'extérieur et d'écrire un livre pour dire que la Terre est plate, par exemple, ce qui est tout à fait permis, aussi bien aux États-Unis qu'ici, et s'il trouve assez d'idiot pour aimer son livre, il peut même gagner pas mal d'argent, c'est son droit, il peut le faire. La question qui était posée est une question précise. Qu'est-ce qui se passe en classe de sciences dans une école publique ? Et là, c'est très différent. C'est très différent parce que l'idée est que dans la... C'est pour ça qu'il est difficile de parler de vérité scientifique. Il est très difficile de parler de vérité scientifique, mais au moins ce que le professeur est censé présenter en classe de sciences, c'est l'état de la science à l'heure actuelle, c'est-à-dire un certain nombre d'argumentations, un certain nombre de raisonnements, un certain nombre d'expérimentations qui, idéalement, pourraient être refaites par tout le monde et qui font en sorte que la question de la science, même si les résultats de la science sont très contestables, même s'il y a de véritables controverses, pas la controverse fausse entre créationnisme et darwinisme qui est une controverse inventée, tout simplement c'est une controverse dans le grand public et comme on l'a vu dans le procès Kiss-Miller, c'est pas une controverse entre scientifiques, mais donc c'est ça la logique de la science. Et l'idée est tout simplement qu'à partir du moment où vous dites soit on ne peut pas l'enseigner parce que pour moi c'est contraire à une vérité sacrée telle que je la lis littéralement dans un texte sacré d'inspiration divine, ou bien vous dites on on peut l'enseigner, mais il faut enseigner tous les deux, et donc vous mettez la religion à côté de la science. Ou bien vous créez une théorie du dessin intelligent dont tout le monde montre que non seulement elle ne tient pas scientifiquement, mais que ceux qui la défendent, le Discovery Institute à Seattle, sont des grands acteurs du créationnisme et de toute une volonté de reconquête, de réévangélisation de la société, et qui mettent sur le même plan le darwinisme, l'avortement, la drogue, la violence, tout fout le camp, quoi. À partir de ce moment-là, vous vous êtes confronté entre, d'une part, une logique d'argumentation scientifique et, d'autre part, une conception qui essaye de limiter la liberté de l'enseigner et la liberté des élèves de le recevoir au nom d'une doctrine particulière. C'est tout ce que je veux dire. Et donc, de ce point de vue-là, on est dans un domaine qui est un domaine très, très différent. Vous pouvez aussi croire à la science. Vous pouvez croire qu'on va progresser, qu'on va savoir beaucoup plus de choses qu'on en sait, que la science va avoir une efficacité qui va permettre de résoudre les problèmes de l'humanité, ou bien qu'elle va détruire l'humanité. Ça, c'est une question de croyance, de projection vers le futur, etc. Mais ici, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de l'intervention brutale ou perverse et sophistique d'une volonté d'imposer une certaine conception du monde et de ne pas accepter les résultats de la logique scientifique à l'école publique. Comme c'est l'école publique, ce sont les pouvoirs publics, c'est l'État, et donc le premier amendement est valide. Maintenant, sur ce que vous dites sur le caractère littéraliste des adversaires des créationnistes. Évidemment, ce que vous dites est attesté par la manière dont Darrow interroge William Jennings Bryan, puisqu'il se place sur le plan littéral, et disant, bon, ben, vous lisez la Bible littéralement, moi aussi. Et alors, vous allez m'expliquer ça, parce que si on lit la Bible littéralement, puisque la Bible, c'est la vérité pour vous, et que justement, cette vérité doit empêcher qu'on enseigne l'erreur, c'est-à-dire le darwinisme, eh bien, alors, s'ils ont tous été noyés, qu'est-ce que vous faites des poissons, des histoires comme ça. Et petit à petit, et il y a d'autres questions qu'il pose sur les générations, etc., bien entendu, c'est quand on connaît l'origine des textes bibliques, et il ne faut pas dire ça nécessairement d'un point de vue athée, les grands théologiens, et en particulier les théologiens du protestantisme libéral, reconnaissent qu'il y a plusieurs auteurs, le Yavis, l'Éloïste, le Deutéronomiste, etc., et que donc, évidemment, tout ça, c'est la parole de Dieu reçue par les hommes avec que si vous la confrontez à la science, comme veut le faire William Jennings Bryan, c'est très mauvais pour la science, parce que la science est opprimée, mais c'est très mauvais pour la religion aussi, alors que les protestants libéraux donnent au contraire de ces textes une interprétation en termes éthiques, symboliques, etc., et pas du tout en essayant de dire, là, il s'agit d'une vérité empirique qui doit être confrontée à ce que dit le darwinisme. Donc, ce n'est qu'une stratégie particulière, mais les adversaires du créationnisme sont, un, les protestants libéraux, ou plutôt les créationnistes fondamentalistes ont réagi au protestantisme libéral qui, péché supplémentaire, était allemand, et après la guerre 14-18, ça voulait dire quelque chose, donc allemand, darwinisme social, etc., c'était quand même beaucoup de choses. Et donc c'est en général plutôt des protestants libéraux, et d'ailleurs en général des religieux libéraux, qui sont ouverts à une interprétation, qui est une interprétation large des textes, et ça c'est important. Et même le prêtre dont je vous ai parlé dans l'affaire Kitzmiller, ce prêtre dans l'affaire Kitzmiller, donc qui est un des plaignants, qui est un professeur de biologie et qui, avec les parents, veut faire invalider ce disclaimer, et qui dit à un certain moment dans le procès, ce n'est pas parce que, je ne sais pas si le fait que je sois prêtre, non pas seulement religieux, mais prêtre, me rend un meilleur biologiste ou un moins bon biologiste, je n'en sais rien, de toute façon ça ne recoupe pas nos divergences quant au sens ultime du monde. Mais c'est très très important, et pour encore juste un mot pour revenir à la première question, il faut bien savoir que si vous allez au musée d'histoire naturelle de New York, qui est l'un des plus beaux musées, des plus pédagogiques, j'étais avec mes enfants, et alors à la sortie, il y a toute une galerie de l'évolution qui est une ode à l'évolutionnisme, à la biologie moléculaire, à la génétique, etc. Bon, hein, et à la fin, il y a deux vidéos, comme ça on voit un savant qui dit « moi je suis agnostique ». Et voilà, je trouve que tout ça, tout ce que vous venez de voir est quelque chose de très important, d'évidemment vérifié à l'heure actuelle, enfin, ou pas falsifié à l'heure actuelle. Et puis, il y a un savant qui dit, moi, je suis religieux, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Et d'ailleurs, nos controverses religieuses sur le sens de l'existence n'ont rien à voir avec ça. Et ma fille m'a demandé, qu'est-ce que ça vient faire ici ? Ça, c'est la réaction européenne. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Ben, ça vient faire que le musée d'histoire naturelle de New York, c'est des fonds publics et qu'ils doivent tout le temps se défendre contre les attaques des créationnistes qui disent que, effectivement, si on montre la galerie de l'évolution de la biologie darwinienne, on défend une religion qui est la religion de la non-religion ou le matérialisme et que donc, quelque part, l'État est biaisé en faveur des incroyants. Et toute la défense consiste à dire que l'État n'est pas biaisé puisqu'il s'agit simplement d'accepter la liberté de la science et qu'une fois que vous êtes au bout de ce que la science peut vous offrir aujourd'hui, ben, vous pouvez encore avoir beaucoup de catholiques, de protestants, de musulmans qui disent que le rapport à Dieu se situe sur un autre plan. Donc c'est ça le débat. Mais le littéralisme ici est véritablement la survie d'un dogmatisme qu'on a vu à l'œuvre, soit dans le procès Bruno, soit précédemment. Et je pense que ça, il faut bien le dire, parce que la croyance, au sens général, c'est un terme beaucoup plus acceptable et politiquement correct, et qu'ici, on est vraiment dans un domaine qui est un domaine vraiment dangereux pour les libertés, quoi.
Oui, mais comme je m'intéresse beaucoup à l'histoire des controverses, via la notion d'affaires et à leur périmètre, je voulais savoir si, selon les destinataires, il y avait des arguments ad hoc. Et j'ai bien vu, évidemment, que le libéralisme était une façon de ridiculiser et de prendre au piège son adversaire, mais je trouve que c'est une position faible parce qu'elle empêche, en toute première argument, de dénoncer, ça oblige d'avoir une analyse de la croyance comme si les créationnistes croyaient en ce qu'ils disaient. Les créationnistes ne croient pas une seule seconde que la Terre a été faite en 2 heures ou en 7 jours. Mais par contre, il n'y a que les gens ne croient pas en ce qu'on... Enfin bon. Mais en tout cas, ce que les créationnistes veulent, c'est ce que vous développez, je trouve très, 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 très bien, et c'est ce qui a été montré dans la controverse, mais il aurait été plus économique d'aller directement, de ne pas naïvement penser qu'ils croient à ce qu'ils disent, mais de montrer ce qu'ils veulent, avec qui ils s'allient, qui sont leurs alliés, etc., exactement ce que vous venez de dire. Et si les destinataires de la controverse, si dans la controverse les raisonnements changent selon les destinataires, ce serait très intéressant de tracer la surface de la controverse et la surface et le type d'argumentation vis-à-vis des destinataires. Mais l'économie aurait pu être faite, parce que ça traîne trop cette histoire de croire que les autres croient. Les autres, ils sont comme vous et moi, ils ne croient pas plus. Ils ont des arguments politiques, ils ont des attaches conservatrices ou non ou au contraire libérales, etc. Mais ils ne croient pas plus que les poissons se noient ou je ne sais pas quoi. Et donc, ces conservateurs, au fond, de croire que les autres croient. Si vous voulez, on pourrait faire aujourd'hui l'économie de cette séquence. Voilà.
Monsieur Jacob voulait réagir. Bon.
Je reviens brièvement sur le procès du singe et sur le littéralisme. Donc effectivement, Garcher a tout à fait raison de faire remarquer que Scopes a perdu. Et il a perdu son procès probablement parce que le jury était saisi d'une spécifique issue qui est-ce que Scopes a violé la loi du Tennessee et qu'il ne s'est pas écarté de cette logique et qu'il a constaté que la violation était faite. Bon, cela dit, si on prend le retentissement du procès dans la presse, dans la filmographie, etc., tout ce qu'on retient du procès, c'est la cross-examination de Brian, c'est-à-dire c'est cette espèce de débordement où le jury devient juge de la Bible. Et là, on tombe sur le littéralisme, c'est-à-dire, et on tombe, à mon avis, sur deux facteurs qui sont complètement couplés et très difficiles à séparer, parce qu'ils se sont formés historiquement en se renforçant toujours l'un par l'autre, un facteur processuel et un facteur religieux, au fond indissociables. Un facteur processuel, c'est-à-dire qu'en dernière analyse, 12 personnes choisies au hasard, qui ont juré en conscience de dire la vérité, peuvent être juges de n'importe quelle question. Et dans les États-Unis du 19e siècle, un certain nombre d'États avaient même conféré au jury le pouvoir d'annuler la loi. C'est-à-dire qu'on estimait qu'un jury était toujours mieux éclairé qu'un législateur, par principe. Il y a un culte du jury, d'ailleurs marqué par la Constitution américaine, puisque Scopes ici avait fait valoir son droit constitutionnel, en quelque procès que ce soit, d'être jugé par un jury. Bon, première chose. Et alors, du coup, on est arrivé dans le littéralisme, parce que c'est une question de bon sens. Mais en même temps, et effectivement, ce qui manque, au fond, aux États-Unis, si je définis leur système comme un manque par rapport aux nôtres, ce qui leur a manqué, c'est le magistère de l'Église, qui permet ici deux choses. Premièrement, d'imposer des interprétations non littérales, parce que précisément, ce qui fait l'écart entre la logique protestante et la logique catholique, c'est le fait que le catholicisme impose des interprétations non littérales, alors que Luther a dit « chacun est juge de la Bible, sola fide, en étant éclairé par sa seule foi, mais voici le bon sens ». Et en même temps, ce magistère fonctionne sur le plan religieux, mais en même temps, il construit la procédure, c'est-à-dire qu'il crée un espace de contrainte sur le juge, sur l'instance judiciaire, un espace de contrainte externe qui est celui du théologien dans l'Église ou du politique dans l'État. Espace de contrainte externe qui n'existe pas en common law, dont la common law est toujours susceptible de s'affranchir. Et je crois qu'ici, ça explique qu'à un moment donné, on se fixe sur, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça a dit, et allons-y dans le littéralisme. C'est peut-être intellectuellement très pauvre, mais c'est inévitablement ce qui arrive. Et à mon avis, d'ailleurs, si je poursuis l'analyse de la jurisprudence de la Cour suprême, qui est assez fascinante sur le créationnisme et avec ses déplacements, ça explique aussi la répudiation complète de la rhétorique, parce que tous ces arguments, tous ces pseudo-arguments, effectivement, comme le dit Guy Archer, qui ont été employés par les créationnistes, évidemment, les juges américains en ont fait justice dans des termes cruels pour les créationnistes, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a jamais marché. Ça recommence toujours, mais ça n'a jamais marché. Et à l'occasion, un certain nombre de juges, alors les opinions dissidentes du juge Scalia notamment sont bien intéressantes, parce que c'est une véritable déconstruction nominaliste d'un système juridique et d'un système religieux. Mais tout ça, je crois, est lié. Alors là, c'est l'analyse qu'en tant qu'historien je poursuis. Tout ça est lié à des structures de la common law qui sont des structures originelles survivent, traversent les siècles, sont réactivées, reparaissent dans des contextes complètement différents, y compris sur des questions très modernes, et qui expliquent l'écart complet entre position du juge et position de la jurisprudence, position des croyances, des religions et de la société, entre les États-Unis, qui nous sont à certains égards si proches, et les pays d'Europe.
Merci. Est-ce que vous voulez réagir, Monsieur Archer? Vous aviez...
Je voulais, mais j'ai oublié, donc je passe mon tour.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Vincent Lefebvre.
Merci. Alors moi j'avais une question qui s'adresse peut-être à tout le monde, mais peut-être spécifiquement au professeur Jacob. Moi j'avais été très interpellé et j'avais trouvé beaucoup d'intérêt dans la distinction qui a été faite avec la civil law d'une part, où il y a eu une répudiation de l'omniscience divine et donc l'enquête qui a été rendue possible, et puis le système de la common law où il n'y aurait pas eu cette répudiation, et on trouverait par extension, si j'ai bien compris, un jury omniscient, même si ce caractère omniscient est plus latent en puissance. Mais il y a quelque chose là-dedans que je n'arrive pas à faire coller avec certaines de mes intuitions de départ, c'est qu'il y a quand même un passage de l'individuel à la pluralité, il me semble, qu'un jury, puisqu'on parle de vérité politique aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion peut-être de faire le lien. Est-ce que la vérité politique n'est pas une vérité qui est par définition plurielle, qui ne peut surgir que dans l'interaction, alors que justement en évoquant la vérité scientifique ou la vérité religieuse, sont des vérités que l'on peut envisager pour une personne qui est isolée? Donc c'était un peu cette opposition entre à la fois votre description qui me convainc et puis peut-être une autre manière de voir les débats d'aujourd'hui suivant avec le couple individuel et pluralité.
Bon, Bon, si je comprends bien, le sujet d'aujourd'hui, c'était le rapport entre le juge et une vérité religieuse ou scientifique, externe ou interne par rapport à la justice. On se situait dans cette perspective-là. Alors maintenant, les clés d'analyse que je propose sont évidemment susceptibles de s'étendre à toutes sortes d'autres procès, y compris ceux qui font intervenir les facteurs individuels, etc. Alors simplement, je crois que nous déplaçons un peu le problème. Nous venons de vivre cet été le feuilleton de l'affaire Strauss-Kahn, hein, qui est vraiment un cas tout à fait individuel et une parfaite mise en lumière de l'idée signalée notamment par Antoine Garapon dans une tribune libre de Libération, que de cette idée que la vérité judiciaire est quelque chose qui se construit complètement autrement aux États-Unis et en France. Donc là, on a pu observer toute l'évolution d'une procédure américaine avec une anticipation sur ce que le jury déciderait. Il y a toujours le jury en bout de course. Donc il faut savoir si un doute raisonnable est possible ou n'est pas possible, qui détermine la stratégie des acteurs, sans que à aucun moment l'intéressé ne donne une version. Il vient de donner une version de ce qui s'est passé dans une interview à un journaliste français, hein, donc quand il est sorti de la logique de common law. Donc, il y a bien deux constructions de la vérité qui sont complètement différentes. Hein. Et là, je voudrais revenir sur les éléments de système qui expliquent effectivement les... Bon, il y a un adage anglais qui dit « justice before truth », difficile à comprendre pour un juriste continental. Comment est-ce qu'on peut être juge sans la vérité ? Bon, comment est-ce qu'on peut être juge sans la vérité ? C'est que les Anglais sont eux-mêmes conscients que leur système met de côté une certaine forme de vérité. Une certaine forme de vérité qu'ils savent exister parce que historiquement, les common lawyers ont toujours mieux connu le système de civil law que le contraire. Hein. Là, je crois qu'il y a une analyse à faire. Il m'a simplement semblé qu'aujourd'hui, ce n'en était pas le lieu.
Merci.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, Guy Archer.
Je me suis souvenu de ce que je voulais dire. Je voulais poser une question à Thomas parce que j'ai été intéressé par ce qu'il disait à un moment, mais je ne suis pas sûr d'avoir correctement compris, sur les procès de sorcières. À un certain moment, tu lisais un texte ou tu commentais un texte dans lequel tu disais qu'au fond, si la sorcière était de mauvaise vie, ben, c'était une preuve du caractère satanique de son action, et que s'il était de bonne vie, ben, c'était pareil d'une certaine façon, puisqu'elles étaient connues comme étant capables d'adopter une apparence qui soit une apparence de bon comportement. Donc en fait, c'est vraiment du catch-22, c'est-à-dire qu'on est pris des deux côtés. Et ça me rappelle, ma question était de savoir si ça n'existe au fond pas toujours aujourd'hui. Bon, d'abord, ça existe dans la vie. Vous savez, dans les couples, quand vous croyez que si votre partenaire croit que vous ne l'aimez plus... Bon, si vous vous comportez comme un goujat, votre partenaire va dire « mais c'est la preuve, effectivement, que tu ne m'aimes pas, regarde comment tu me parles, regarde comment tu te comportes avec moi ». Et si vous êtes gentil, votre partenaire va dire « il est gentil, c'est qu'il a quelque chose à cacher, donc quelque part, le résultat sera le même et vous êtes condamné, peut-être à juste titre ». Mais dans le cas, plus sérieusement que toutes ces affaires, qui sont importantes, mais personnellement, dans le cas de l'affaire du trou, on a souvent eu ça dans la question des protections éventuelles. C'est-à-dire que plus on disait, donc dans l'affaire du trou et ses acolytes ont été condamnés pour les horribles affaires que vous connaissez, beaucoup de membres activistes de la société, mouvement blanc, etc., considéraient qu'il y avait des protections bien plus haut placées et qu'au fond, on n'avait pas véritablement arrêté et jugé les gens les plus importants, ceux qui commettaient des choses abominables dans les hautes sphères de la société, etc., etc. Et on n'a rien trouvé, donc on n'est pas arrivé à étayer tout ça. Et moins il y avait de preuves de l'existence des protections, plus le raisonnement était ils sont encore mieux protégés, ils sont tellement intelligents qu'ils sont capables d'effacer tout à fait les traces, et donc la suspicion était d'une certaine façon inextinguible. Et ça me faisait penser à ce que tu disais des sorcières, pour dire qu'on n'en est peut-être pas sorti.
Non, quant au caractère simplement fallacieux de l'argument, dès lors qu'il tente d'être en prise, disons, avec une vérité cachée, là tu as tout à fait raison. Disons, ce que je voulais surtout pointer à travers ce phénomène-là, c'était le fait que cela produisait évidemment un éloignement de d'un certain type de débat ou d'un certain type de controverse qui mettrait aux prises des faits ou des vérités, hein, dont on pourrait peser en quelque sorte le caractère plus ou moins... correspondant à une réalité, au profit d'une autre question qui est celle, comme je l'avais dit en terminant, du rapport que nous nouons avec la vérité, hein, ou des attitudes que nous avons par rapport aux vérités, avec évidemment toute la possibilité que cela offre de déplacer le débat sur un terrain moral et sur le terrain des comportements. Voilà, mais pour le reste, effectivement, une fois qu'on ouvre cette possibilité, en quelque sorte, de l'action secrète, hein, qu'il s'agisse du démon ou d'autres forces occultes dans nos sociétés ou d'autres formes de réseaux, etc., tous les arguments peuvent fonctionner, ça, bien entendu.